Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Oana Favenec. Bonjour Oana.
Bonjour Maëlys Bessery, bonjour à tous. Une jeune fille parle du climat devant les députés, clivant les élus le jour du vote solennel du CETA, un vote sur le traité de libre-échange avec le Canada qui, lui aussi, divise. François de Rugy reçoit l'absolution pour ses travaux au ministère de l'écologie. Le dressing à 17 000 euros était peut-être commandé dans l'urgence. Le secrétariat général du gouvernement valide dans l'ensemble les rénovations réalisées par l'ancien ministre dans son logement de fonction. Boris Johnson s'apprête à prendre la place de Theresa May et essaye de se débarrasser de son image du fou du roi en affichant un programme aussi ambitieux qu'onéreux pour les dépenses publiques britanniques. À 12h45, Maëlys Bessery, la grande table d'été.
Et oui, on va parler de l'exposition Schunk et Kender au centre Georges Pompidou qui nous plonge dans la photographie, dans l'intimité des artistes, avant de faire le portrait du comédien Hassan Thimbo.
À tout à l'heure, Maëlys. Greta Thunberg est en ce moment même devant les députés avec ses nattes blondes et ses 16 bougies. L'égérie suédoise de l'écologie prend la parole en ce moment donc au Palais Bourbon. Elle veut les convaincre d'agir sur le climat, brandissant notamment le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Véronique Rebérotte, bonjour, vous êtes au Palais Bourbon?
Oui, bonjour.
Des députés, les Républicains et Rassemblement National avaient promis de boycotter son intervention, la traitant de Justin Bieber de l'écologie ou de Jeanne d'Arc du climat. Finalement, Véronique, dans quel contexte se tient cette prise de parole ?
Mais écoutez, exactement comme vous venez de le dire, avec ceux qui sont venus vraiment écouter Greta Thunberg et ceux qui ont décidé, ils réaffirment leur boycott, comme le député En Marche, Benoît Simian, il était là ce matin.
Je sors d'une réunion de travail et on continue. Nous sommes au travail, nous avons autre chose à faire, je le dis une fois de plus, que ce type de spectacle médiatico-politique. Merci.
Voilà, pour les autres, eh bien, il est important d'entendre, en France en tout cas, devant la représentation nationale, le discours de celle qui exhorte la jeunesse à se mobiliser et fait culpabiliser, c'est vrai, les politiques dans leur inaction. Invitée, par exemple, pour la première fois ici à l'Assemblée nationale, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, elle n'a jamais été invitée à s'exprimer devant les députés. Sa première question, d'ailleurs, a-t-elle dit, sera aux députés présents, avez-vous lu notre rapport, le rapport du GIEC qui fait autorité sur le climat? Question qu'elle pose à chacune de ses interventions et beaucoup de jeunes, dit-elle, ceux qu'elle rencontre lorsqu'elle va dans les universités ou les écoles, eh bien l'ont fait, parfois difficilement. C'est une lecture complexe. Rarement les politiques ont lu ce document. La députée, elle, Delphine Batou, qui est là, qui est présente ce matin, se dit, comme Valérie Masson-Delmotte, eh bien complètement consternée par la polémique sur la venue de Greta Thunberg. Elle s'explique toutes deux ce rejet de Greta Thunberg par le fait que l'adolescente, eh bien, est une messagère qui dérange, alors qu'elle relaie pourtant un discours scientifique. On écoute Valérie Masson-Delmotte.
Moi, ça m'intéresse pas du tout, ces polémiques. Je les trouve extrêmement futiles. Et je vais vous le dire autrement. On parle de la messagère, en l'occurrence, mais on parle pas du problème. Et ce qui m'intéresse, c'est parler du changement climatique, sa réalité qui affecte tout le monde, les écosystèmes et les gens. Parler des risques et aussi parler des solutions et faire en sorte que ces solutions soient déployées.
Voilà, Greta Thunberg, une vérité, une messagère qui dérange. Dérangera-t-elle ceux qui cet après-midi eh bien doivent voter le CETA? Les députés seront-ils ébranlés dans leurs convictions, leurs doutes au moment où il faudra voter donc ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada? C'est un petit peu le but recherché hein, par ceux qui invitaient Greta Thunberg, comme Mathieu Orphelin. On le saura tout à l'heure. Greta Thunberg, en tout cas, après un repas végétalien, c'était son souhait, assistera à 15h aux questions du gouvernement dans l'hémicycle. Elle sera en tribune d'honneur. Elle n'assistera pas a priori directement au vote.
Véronique Rebérotte à l'Assemblée nationale avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau. C'est donc jour de ratification à l'Assemblée, un vote solennel où chaque député doit s'exprimer cet après-midi sur le CETA. Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, les exhortait hier à avoir le courage de dire non à ce texte, déjà rentré pour bonne partie en application. Les appels et les pressions se multiplient, notamment de la société civile, mais Stéphane Robert, l'issue de ce vote reste assez certaine.
L'opposition ne fait pas mystère de son opposition à la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. La gauche votera contre de façon quasi unanime, tout comme les députés du Rassemblement national, et la droite républicaine également votera contre dans sa très grande majorité, les trois quarts du groupe au minimum, détaillait ce matin un conseiller. Dès lors, sachant qu'une partie de la majorité se pose des questions, qu'un certain nombre de députés ont des doutes, on peut se demander si, au bout du compte, il y aurait une chance ou un risque que le vote bascule, que finalement le CETA ne soit pas ratifié par les représentants de la nation à l'Assemblée. A priori, la réponse à cette question est non. parce que la plupart des députés de la majorité sont soumis à une logique politique qui les empêche de s'opposer ouvertement à ce que souhaitent le président de la République et le gouvernement. Les 304 députés de La République En Marche doivent leur élection à celle d'Emmanuel Macron et ils existent à l'Assemblée nationale parce qu'ils s'inscrivent dans un fonctionnement majoritaire. Ils fabriquent la loi voulue par le pouvoir exécutif dans le cadre d'une politique globale pensée par le président de la République et par lui seul. Dès lors, aucun risque de voir s'exprimer des frondeurs comme du temps de François Hollande. Ceux qui ont des doutes sur le CETA vont l'exprimer en s'abstenant. A priori, il pourrait être une cinquantaine selon un décompte réalisé ce matin au niveau du groupe. Il y aura sans doute quelques votes contre chez les alliés du MoDem, mais rien qui soit de nature à inverser le vote prévu cet après-midi. Le CETA devrait être ratifié sans trop de difficultés.
Stéphane Robert. L'enquête commandée par le gouvernement dédouane François de Rugy sur le volet des travaux réalisés au sein de l'hôtel de Roquelaure où le ministre de l'écologie était logé. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Près de 65 000 euros qui, pour la contrôleuse générale des armées Virginie Aubard, se justifiaient dans l'ensemble.
Oui, c'est validé dans l'ensemble. Les règles de la commande publique ont été globalement respectées. Seul bémol, souligne le rapport, la relative urgence dans laquelle les commandes ont été passées, notamment pour le dressing à 17 000 euros. Mais pour Gilbert Collard, député du Rassemblement National, avocat de profession, peu importe finalement les conclusions de cette enquête ou de celles menées à l'Assemblée, les enquêtes elles-mêmes posent problème.
On ne peut pas être juge et parti. Matignon fait une enquête, M. de Rugy était membre du gouvernement. Le Parlement contrôle, M. de Rugy était président de l'Assemblée nationale. C'est prendre les gens pour des 3 points de suspension. Il y a des règles de bon sens, enfin. Qui peut croire à la liberté des contrôles dans un cadre aussi soumis? C'est pas possible. Enfin, Matignon qui contrôle le numéro 2 du gouvernement. Non, mais on se moque du monde. Et c'est pas très bon de se moquer du peuple. Pas très bon.
Matignon refuse tout procès en partialité. François de Rugy, lui, prépare sa contre-offensive avec son avocat, selon son entourage. Et dans le même temps, son retour à l'Assemblée nationale, puisqu'il va redevenir député au mois d'août.
Rosalie Lafarge. Dans le même temps, ce matin, Matignon a annoncé une nouvelle circulaire pour, je cite, « renforcer le process de contrôle des travaux dans les logements de fonction ». Elle compléterait les règles déjà édictées au début du quinquennat. Des insultes qui fusent, des coups parfois. Le personnel médical est de plus en plus victime de violences. Elles augmentent de 6% en 2018 par rapport à l'année précédente. C'est ce que révèle un rapport de l'Observatoire des violences en milieu de santé publié donc aujourd'hui. Vous l'avez parcouru, Hélène Fromanti?
Oui, et ce rapport montre que plus de 23 000 faits de violence y sont répertoriés. Un enfant qui gifle son éducatrice, un malade qui insulte l'ambulancier ou encore un patient qui arrache la boucle d'oreille de l'infirmière. Ces situations, pour le moins effrayantes, sont détaillées par dizaines dans ce document. Descriptions et citations à l'appui. Alors une très large partie de ces violences, 80% précisément, sont des atteintes aux personnes. Des violences verbales de type injures ou menaces de mort, mais aussi et surtout des violence physique, une claque, un tirage de cheveux et même tentative de meurtre avec plusieurs l'utilisation d'une arme par destination comme une béquille, un bistouri ou encore un pied de perfusion. Alors la plupart du temps, ces actes violents sont commis par des patients, des malades qui dans un cas sur 5 souffrent de troubles psychologiques et dans un cas sur 10 sont alcoolisés. Mais de plus en plus souvent, précise le rapport, ce sont monsieur et madame tout le monde qui dérapent. On note également que les agresseurs sévissent surtout dans les services de psychiatrie, aux urgences et dans les EHPAD et qu'ils s'en prennent principalement au personnel, notamment aux infirmiers et aides-soignants, avec souvent un arrêt de travail ou une ITT à la clé. Les atteintes physiques sont donc largement, on l'a vu, majoritaires, mais on dénombre aussi plus de 5000 atteintes aux biens, des vols, des incendies ou encore des dégradations. Enfin, l'an dernier, ces signalements ont certes donné lieu à plus de 2000 plaintes et 260 mains courantes, mais dans près de 80% des cas, ils n'ont donné lieu à aucune démarche judiciaire.
Hélène Fromanti. Boris Johnson devrait sans surprise être élu Premier ministre du Royaume-Uni. Le résultat du vote des 160 000 membres du Parti conservateur devrait tomber dans une dizaine de minutes, annoncé par les instances du parti. La victoire de l'ancien maire de Londres sur l'actuel chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, ne fait aucun doute. Bojo, réputé pour ses sorties hasardeuses, aura devant lui quelques dossiers embarrassants, à commencer par le plus préoccupant, celui qui a causé la perte de Theresa May, le Brexit. Nous retrouvons Antoine Gignot à Londres. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Mais justement, Boris Johnson essaye de sortir de ses deux écueils, le Brexit et sa réputation de gaffeur, n'hésitant pas à multiplier les annonces, un programme en contradiction avec la politique d'austérité affichée jusqu'alors.
Absolument, il ne fait pas de mystère, Boris Johnson. Pour gagner des points aux yeux des Britanniques, il va dépenser de l'argent. Terminer la politique d'austérité menée par Theresa May et David Cameron, terminer les suppressions de postes de fonctionnaires, les coupes dans le budget des hôpitaux, il veut augmenter le salaire minimum, il veut alléger les impôts des classes moyennes, embaucher des policiers et des profs, lancer de grands chantiers, des promesses tous azimuts, chiffrés par le Daily Telegraph à plus de 30 milliards d'euros. Aucune précision en revanche sur le financement. L'entourage du futur Premier ministre explique que le Brexit va permettre de faire des économies, qu'il y aura des emprunts d'État pour couvrir le reste des dépenses. Le déficit budgétaire va augmenter, explique un ancien ministre, et une partie des conservateurs s'inquiète d'un ralentissement possible de l'économie liée à la sortie de l'Union européenne, surtout en cas de Brexit dur le 31 octobre prochain. Un nuage noir plane sur le pays, explique Sir Alan Duncan, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui démissionne, tout comme ses collègues du ministère de l'Économie, de la Justice, du Développement international, de l'Éducation. On s'attend au total à une douzaine de départs cet après-midi au sein du gouvernement.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Il y a 20 ans, le 23 juillet 1999, à 20h40, les programmes télévisés du Maroc s'arrêtaient. Un présentateur en larmes donnait la parole au fils aîné d'Hassan II. Le roi était mort. À 36 ans, Sidi Mohamed prenait sa suite. Depuis, Mohamed VI a œuvré pour la mise en place d'une monarchie plus démocratique, pour incarner un Maroc plus moderne, mais avec encore des progrès à accomplir, Valérie Crova.
Depuis son accession au trône, Mohamed VI a fait du droit des femmes une priorité. L'adoption d'un nouveau code de la famille établit une égalité entre les époux, autorise une forme de divorce par consentement mutuel et fixe l'âge légal du mariage à 18 ans. Autant d'avancées dans une société patriarcale où subsistent encore des freins puissants, notamment en ce qui concerne les droits liés à l'héritage. Face au chômage qui touche encore majoritairement les jeunes, plus de 60% d'entre eux, le gouvernement marocain a mis en place l'été dernier un plan pour favoriser leur insertion dans le monde professionnel. Qu'en est-il des droits de l'homme? Tandis que le ministre en charge des droits humains affirmait début juillet que la torture n'existait plus au Maroc, une ONG recensait récemment 27 cas de traitements cruels ou dégradants pendant des gardes à vue. En deux décennies, les vieilles pratiques héritées des années de plomb de l'époque d'Hassan II n'ont pas toutes disparu, comme la peine de mort qui n'a toujours pas été abolie. S'il existe un moratoire, 10 condamnations ont encore été prononcées en 2018.
Valérie Crova. Le narcotrafiquant mexicain El Chapo est derrière les barreaux, enfermé pour l'instant dans une prison ultra sécurisée au Colorado, même si ses avocats ont fait appel de sa condamnation à la perpétuité. El Chapo est à l'ombre, mais son argent, les milliards de dollars amassés durant sa carrière de trafiquant restent introuvables. Le Mexique et les États-Unis veulent donc faire toute la lumière sur ces bénéfices pour pouvoir les confisquer, Emmanuel Stiles.
Où se trouve l'argent de Joaquin Guzman? Tant le Mexique que les États-Unis veulent élucider ce mystère. Alors le gouvernement mexicain a proposé à Washington de créer un groupe binational spécialement chargé d'enquêter sur les finances d'El Chapo. L'homme figurait en bonne place il y a quelques années dans le classement des plus riches du monde, élaboré par la revue Forbes. La justice américaine a évalué à plus de 12 milliards de dollars le pactole amassé par le leader du cartel de Sinaloa. C'est une estimation des bénéfices de la vente de tonnes de cocaïne, d'héroïne et d'autres substances écoulées par son organisation. Mais durant le procès d'El Chapo à New York, aucun document, aucune preuve tangible de cette fortune n'ont été présentés. Les enquêtes en cours ne sont pas venues à bout des réseaux de blanchiment d'argent du cartel de Sinaloa, mais la somme hypothétique excite les convoitises et les deux pays annoncent leur intention de la confisquer. Le gouvernement mexicain pense que l'argent lui revient, mais qu'il a probablement été investi aux États-Unis. Et là-bas, on propose de l'utiliser pour construire le mur sur la frontière, un obstacle pour le narcotrafic.
Emmanuel Stiles. Deliveroo, condamné par la justice espagnole, a payé 1,2 million d'euros à la sécurité sociale pour ne pas avoir déclaré 500 livreurs qui travaillaient pour lui. Deliveroo a toujours affirmé que ces livreurs travaillaient en indépendant. La canicule devrait s'installer en France jusqu'à vendredi en Bretagne. Il fera 42 degrés à Agen, 41 degrés à Limoges cet après-midi, à Montauban et Auch également 41 degrés, 40 degrés au Mans, à Nantes, Tours, Bourges, Clermont-Ferrand, Cognac, Toulouse ou encore Bordeaux. 59 départements du sud-ouest de la France, et de l'Île-de-France au centre-est sont placés en vigilance orange canicule. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction de France Culture à 18h.